Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Oui.
Des...
Clip, crop,
des...
Bang,
des...
Bang,
et des...
Zitch, bam, pow, blanc.
Ah, ça fait du bien de se retrouver, hein.
Oui, Jean-Marc, oui, ça fait du bien, oui, ça faisait un petit moment.
Ouais. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi ? La vie, c'est fantastique. Fantastique. Le fait de penser... moi, ça m'a fait penser à une chanson. C'est fantastique. C'était qui ?
Léo Ferré.
Ouais.
Ah non, c'est Extra, en fait, pardon.
Ouais, mais c'est pareil.
Ouais, extra, ouais, alors c'est fantastique. Extra, fantastique. Ouais, voilà.
Ça fait penser, bon, ça parlait à une chanson des populaire. Des filles, oui. La vie est fantastique, mais nos lectures peuvent être fantastiques ou fantasques.
Mm.
Ah, c'est intéressant, la nuance. Nous allons plonger dans les ondes extraordinaires. Le mot d'ordre est « soyons fous ». Mais fous. Pourquoi fous ? Écoutez-nous. Et prenez, à partir du fantastique ou du fantasque, une destination inconnue au travers de notre sélection. Parce que c'est nous qui choisissons,
oui.
C'est normal. Attention, il y a des épisodes très différents, dans des parcours différents aussi. Accrochez-vous.
Once upon a midnight dreary, as I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, tapping at my chamber door, "only this and nothing more." Muttering, I got up weakly, always I've had trouble sleeping. Stumbling upright, my mind racing, furtive thoughts flowing once more, I there hoping for some sunrise, happiness would be a surprise. Loneliness, no longer a prize. Rapping at my chamber door, seeking out the clever boar, lost in dreams forevermore, only this and nothing more. Hovering, my pulse was racing, stale tobacco, my lips tasting, scotch sitting upon my basin, remnants of the night before, came again. Infernal tapping on the door and in my mind jabbing. Is it in or outside rapping, calling out to me once more the fit and fury of Lenore, nameless here forevermore? And the silken, sad, uncertain rustling of the purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before. So that now, oh wind, stop breathing! Hoping yet to calm my breathing, 'tis some visitor entreating entrance at my chamber door. Some lost visitor entreating entrance at my chamber door. This is it and nothing more. Deep into the darkness period.
Jean-Marc, as-tu reconnu cette très belle voix ?
Oui,
as-tu reconnu ce poème ?
Monsieur, forcément Edgar Poe, et c'est Monsieur Defoe.
Oui, Willem Defoe, très grand acteur américain de cinéma et théâtre, oui.
Faux, Poe.
Oui.
Hein, on peut réfléchir là-dessus.
Oui, on peut réfléchir, oui.
Donc, c'est bizarre parce que d'habitude...
Construire une dialectique extrêmement puissante.
Ouais. On met de la musique d'habitude, mais là, c'était vraiment une introduction. C'est Anne qui a choisi.
Oui, mais ce n'est pas la première fois qu'on entend Willem Defoe, parce que c'est un texte absolument magnifique.
Bon, c'est Anne qui a choisi, mais c'était une décision très intelligente, comme d'habitude.
Oui. Oui, intelligente, oui. Parfait.
Bon,
merci,
on va peut-être
Jean-Marc.
Parler du bouquin maintenant.
Ne sois pas trop flatteur, s'il te plaît.
Non.
J'ai du soupçon. Oui, donc on va parler effectivement de ce premier album. Alors, Richard Corben, Esprit des morts et autres récits d'Edgar Allan Poe, aux éditions Delirium. Voilà, donc avec... alors, je cherche
c'est
donc la date de
publication. C'est magnifique. Hein.
Oui, tout à fait. C'est une réédition de 2015. Donc qui est effectivement un très très bel album composé de plusieurs récits au moins une quinzaine.
C'est très précis.
Oui, tout à fait, certains très courts et d'autres plus conséquents, certains peu connus et d'autres très connus, comme d'un côté par exemple Bérénice et de l'autre la chute
Bérénice,
de la maison chère.
Bérénice, c'est un des plus beaux poèmes, enfin c'est presque un poème, pour moi c'est presque un poème.
Oui, rien que le mot, rien que le prénom. Alors, Richard Corben ne t'est pas inconnu, c'est un ami à toi.
Oui, un petit peu. C'est un donc il dessinait dans des magazines que nous avons connus. Enfin, surtout moi quand j'étais petit, parce que t'es beaucoup plus jeune que moi.
Oui, beaucoup, beaucoup plus jeune.
Et dans Eerie, Creepy, etc., il y avait des, du Corben. Corben, il a une particularité, j'aime bien son dessin, c'est que c'est des gens qui sont complètement déformés. Ça me fait beaucoup penser à, au cinéma, à Shrek. Mm-hmm. C'est des personnages qui sont un peu bizarres, mais c'est très soigné en, dans le dessin, c'est très fort. Mm-hmm. Moi, j'aime beaucoup au niveau de la couleur, etc. Parce qu'à l'époque, il dessinait, bien sûr, avec de la peinture. Etc.
Oui, c'était un grand coloriste, effectivement. Ouais, oui. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Alors, Richard Corben, alors je reviens aux chiffres. donc, il est né en 1940. Hein. C'est un Américain. Il vient de la ville de Superman, de Kansas City. Voilà, il a fait des études d'art et effectivement, il s'est spécialisé.
Il vient de Smallville.
Non, c'est, oui, bah, il est du Kansas. Hein, voilà.
Oui, bon,
ok, ouais. C'est pas Smallville. D'accord. Donc, je vois que tu connais bien la vie de Superman dans le moindre détail. Donc, il a fait des études d'art et effectivement, il s'est spécialisé dans le comics underground. Effectivement. Ouais. Donc, et plus exactement, fantastique, horrifique, donc mais creepy. C'est Vampirella. Vampirella.
Ah, Vampirella, c'est un, ouais. Un de mes rêves. Bon.
Oui, un de tes fantasmes.
Ouais. La et donc, plus belle des vampires.
Ouais, voilà, exactement. Ouais. Alors, surtout, c'est le personnage de Den dans Heavy Metal, puisque, bon, Heavy Metal est une... Metal Hurlant, en fait, est une publication originellement française. Et en fait,
aux États-Unis. Les
a, oui, voilà. Et il a contacté ensuite, l'équipe française, oui. Ouais, il a proposé le personnage de Den.
Et ensuite, il y a eu un film.
En 1981. Et Den, effectivement, est un personnage qui est repris à un des sketchs de Metal Hurlant qui montre le personnage de Den. Donc, un jeune adolescent, un nerd, comme on dit. Hein. Voilà, donc un peu
un
bizarre.
Nerd, c'est un, peu, un nerd, c'est quelqu'un qui est un peu zarbi.
Oui, qui a des passions, qui l'isole un peu, qui est un peu schizoïde, c'est-à-dire un peu dans son monde. Et en fait, un jour, évidemment, il est touché par cette sphère verte qui représente le mal. Et d'un seul coup, il se trouve propulsé dans un monde qui s'appelle le Neverwhere, où d'un seul coup, le jeune ado se retrouve affublé d'un corps.
Ce que ça veut dire, Neverwhere.
Oui. Mmh.
C'est un non-lieu.
Oui, voilà, exactement.
Comme on dit en justice, c'est oui. Un non-lieu.
Oui, voilà. Mais là, c'est, le non-lieu est un sacré lieu, puisque, ouais. En fait, il se transforme physiquement, devient un homme qui, d'ailleurs, est entièrement nu, superbement musclé et qui a des
ceci
aventures.
Ceci ne nous regarde pas.
Ah ben, c'est plutôt lui qui nous regarde. Hein, quand tu ouvres l'album, et donc, il a de superbes femmes à ses genoux. Bref, le fantasme total
ouais, ça,
du jeune
normal,
nerd, avec
normal.
Des aventures qui sont vraiment très intéressantes et c'est de l'héroïque fantasy, hein, voilà, tout simplement. Mmh. Alors après, en tant que coloriste, il a fait plusieurs épisodes du Spirit de Will Eisner.
Grand dessinateur, on
oui,
peut le rappeler.
Tout à fait,
quand
oui. Mmh. On peut le rappeler, il a carrément
mort,
un prix à son nom. Ouais. Et les prix Will
Spirit,
Eisner, c'est ce qu'il y a de plus grand.
Mmh. Il a créé un prix,
ouais,
oui, exactement.
Tout à fait.
Tu peux en parler parce que c'est vachement intéressant. Ça.
Oui, alors dans le détail.
Le prix Eisner, il existe ouais. Toujours.
Exactement, oui, tout à fait. Oui, et puis il y a de très grands scénaristes. Enfin, il touche tout autant les scénaristes que les dessinateurs. En fait, c'est un prix qui a de nombreuses, enfin, qui comprend de nombreuses récompenses, qui décline tout autant scénarios, dessins, que couvertures, etc. Voilà.
En fait, c'était aussi un grand, on peut le dire maintenant, pour fermer la parenthèse, un grand dessinateur.
Ouais.
Absolument fabuleux.
Oui.
Il a, c'est un des dessinateurs qui a le mieux dessiné New York.
Ah.
Les bâtiments.
Oui.
Mm-hmm. Non, mais c'est vrai.
Oui, non, mais je veux bien te croire.
C'est absolument extraordinaire ce qu'il a fait. On ferme la parenthèse.
Oui,
merci.
Exactement. Donc, il a fait aussi la série Hellblazer, scénarisée par Brian Azzarello. Et puis, donc, il a fait en 2005 quelques épisodes de la série Swamp Thing, qui s'est fait connaître parce que c'est l'un des premiers scénarios d'un certain Alan Moore. Voilà.
Et le dessinateur ? Ah, oui. Tu ne veux pas me le rappeler, le dessinateur ?
Le dessinateur de Swamp Thing ?
Ouais.
Oui, c'est lui qui dessine Swamp Thing.
Qui ?
Ah, tu veux dire le dessinateur d'Alan Moore ?
Oui.
Non, Jean-Marc, eh bien, je ne sais pas. Voilà, donc également une collaboration avec Mike Mignola sur le personnage de Hellboy, avec notamment The Bride of Hell et Troll et Sorcière, et L'Homme
et
Tordu, voilà. Donc trois albums.
Tout à l'heure, parce que...
Oui.
On a Mignola.
Non, mais tu sais.
Mignola Forever.
Oui, voilà.
Oh là là, c'était facile.
Oui, c'était très, très facile, mais en même temps, il fallait la trouver. Tu sais, c'est facile à partir du moment où tu le dis, mais après, il faut plonger. Je sais que tu étais aux adieux de...
Dans la piscine, mais il faut regarder s'il y a de l'eau, parce que autrement, tu te fais mal.
Mm-hmm. Ah oui. Donc, en fait, sa collaboration avec Mike Mignola, c'est 3 albums entre 2008 et 2011. Voilà. Alors, que peut-on dire de cet album? Parce que là, on tourne autour de oui, Richard Corben, mais en fait, il faudrait peut-être parler de l'album lui-même.
Non, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était le rapprochement entre les deux.
Mm-hmm. Donc, il a adapté.
Alain Poe, moi, je connais bien. Voilà.
Mm-hmm. Ouais.
Ça, c'est ma vie privée, etc.
Moi et Alan. Alan et Jean-Marc.
Moi et Alan, ouais. Mais ça ne regarde personne. Ça. Mm-hmm. Bon. Mm-hmm. Et après, Corben, je ne savais pas du tout qu'il avait adapté Poe.
Et oui, c'est moi qui t'ai mis l'album sous le nez.
Exactement. Et là, mais merci, Anne.
Non, mais je t'en prie, Jean-Marc.
Mais ce qui est très intéressant, c'est ouais, le rapport entre les deux, c'est très bien. Moi, je trouve ça très beau. On n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Hein, parce que les personnages de Corben, ils sont un petit peu caricaturaux.
Bah, c'est ce qu'on appelle son expressionnisme, hein, quand tu as envie de convoquer, si tu veux, à l'iconologie.
Ouais, je l'exprime un peu, il me fait penser à Balthus. Les personnages sont un petit peu...
Bah, le peintre.
Oui, c'est un peintre. C'est pas un peintre en bâtiment. Oui, Balthus.
Oui, oui, Balthus, oui.
Les personnages ils sont un peu ronds et tout ça. Mm-hmm. Et si, ça me fait un peu penser à ça. Non, mais bon,
tu parles de Botero ou tu parles de
Balthus? Ah, Botero,
oui.
Mm-hmm.
Ouais, Balthus, c'est plutôt froid. Je te conseille La cuisine de Gilles, qui fait une référence à Gilles Doré. C'est très sympa.
Ben, Gilles Doré, c'est le mec...
Oui, oui. Ah, l'un des capitaines de Jeanne d'Arc. Alors, on va faire... Oui, c'est ça, on va faire une parenthèse un peu gore, puisqu'on reste dans le ton de l'émission.
Non,
Gilles
c'est
Doré.
Bien, c'est une émission intelligente et intelligente.
Alors, Jeanne crame sur son bûcher en 1431, et Gilou, durant 10 ans, entre 1431 et 1441, en fait, bâtit à lui seul, avec ses mœurs personnelles, l'idée de l'ogre en France, dans son super château de Tiffauges.
Voilà.
Voilà, et donc se retrouve accusé effectivement et condamné pour donc enlèvement, séquestration et ouais, puis viol enfin, et
tout,
cannibalisme
tout ce qui va,
sur ces pages.
Cépage.
Non, pas cépage, ni le cépage en vin. Non, non, c'est pas le cépage en vin, c'est pas les pages d'un livre. C'est en fait les enfants qui donc se trouvent avoir une fonction de serviteur. Oui, voilà.
Donc là, on va pas aller plus loin parce qu'après, ça va faire un peu. Si c'est pages, ça fait les petits enfants, c'est pas bon en ce moment, ça passe pas à l'antenne. Hein.
Mm-hmm.
Bon, mais on continue parce que
là, oui, alors Corben, le style de Corben.
Ah, le style de Corben, c'est extraordinaire, moi j'adore.
Mm-hmm.
Mais
alors d'où vient? Non, mais décris ton adoration. Le pourquoi tu te pâmes devant?
Non, je ne me pâme pas. Ah, c'est joli. Non, mais c'est un dessinateur, les couleurs sont fantastiques. Il a une façon de représenter les corps qui est plutôt du côté de la peinture que du côté de la BD. Mmh.
Effectivement, il y a une introduction dans cet album où il est interviewé. Il dit bien que lui, ce qui l'intéresse, ça n'est pas de prendre le texte de Poe, mais bien de l'adapter. Quand tu prends par exemple Double Assassinat rue Morgue, tu as toute une introduction qui d'ailleurs est très intéressante, une discussion entre les deux personnages qui mènent l'enquête hein, donc sur ce double assassinat rue Morgue à Paris. Et en fait, il parle à un moment donné de la différence entre les échecs et les dames, le jeu de dames et le jeu d'échecs. Et donc, évidemment, cette partie-là a été complètement supprimée par Corben, qui en fait va ne pas s'intéresser aux enquêteurs, mais tout de suite se précipiter sur les lieux du crime. Ouais, la chute de la maison Usher aussi, c'est très impressionnant. Hein. Le retour, en fait, la couverture qu'il avait fait, parce que dans les années 80, il avait sorti en fait donc son adaptation de cette nouvelle très connue. Et moi, je me souviens que lorsque j'étais gamine, j'avais été très impressionnée, voire totalement effrayée, au point de faire des cauchemars, parce que j'avais vu justement dans la vitrine d'une librairie. Oui, j'avais vu effectivement cette couverture extrêmement impressionnante où on voit justement la sœur de Usher réapparaître, sortir de la tombe et arriver dans la pièce brutalement, en fait, avec ses vêtements en lambeaux, les yeux exorbités.
C'est un conte terrible, la chute de la maison Usher.
Comme
pas mal de choses d'Alan Poe, comme Bérénice. Bérénice, c'est un conte que j'adore. Bérénice, c'était la nièce de Poe. Qu'il a épousée, qui est morte, Et il en a fait une nouvelle après.
Oui.
Mais ça, c'est vrai, c'est pas du fake story. Mm-hmm. Non, c'est du vrai. Et ouais, Bérénice, c'est un conte qui est absolument fabuleux. Non, c'est un très un bel ouvrage.
Oui, en tout
plus,
à fait.
C'est très bien. Mmh.
Oui,
c'est
très bien belle édition, effectivement. C'est très belle bien, présentation.
On va dire, on va être un peu. C'est bien foutu.
Ouais, voilà, c'est très bien foutu, oui. Mmh. Oui, en fait, il y a une, il y a des pages de garde qui
non, mais
sont
des histoires dessinées dans la fabrication. Avec un charnier. Oui. C'est assez très, mmh. C'est bien
oui.
fait.
Oui, il est
au
très
niveau
bien
maquette,
fait.
Présentation, c'est mm-hmm. excellent.
Oui, oui, oui exactement.
Bonne moi, lecture pour oui. les gens qui ne connaissent pas ou peu Alan Poe. C'est une bonne introduction oui. à, mm-hmm. à son monde. Il faut oui. lire Alan Poe.
Oui, 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 tout à fait. Mm-hmm. Très bien, alors on rappelle, donc Richard Corben, Esprit des morts et autres récits d'Edgar Allan Poe, aux éditions Delirium. Donc c'est une réédition et cette compilation date de 2015.
Voilà, il ne faut pas faire comme Alan Poe et être en pleine crise de délirium pour le lire.
Oui, voilà, ça n'est pas la peine. Alors Jean-Marc, oui, nous allons maintenant aller de Edgar Allan Poe à Lovecraft.
Ah, c'est pas évident, hein.
Non.
Donc on va passer, on va aller à Providence.
Oui, voilà, alors, exactement.
C'est où Providence?
Aux États-Unis, sur la côte
quelque
est.
Quelque part.
Oui, quelque part, somewhere.
Never Parce qu'au well. Début de l'album, mmh. on a une carte de mmh. Providence oui. qui est un peu compliquée. Mmh. Parce que moi dans, qui connais New York, j'ai pas mm-hmm. bien compris. Mais c'est un peu comme Gotham City, c'est chez Batman. Mm-hmm. C'est une ville un peu fantasque, oui. qui n'existe point. Mm-hmm. Et bon, par contre, Lovecraft, c'est un auteur très intéressant, qui est pas forcément évident. Là, c'était adapté en bande dessinée. Moi, personnellement. Je l'ai trouvé très bavarde. Mm-hmm. Ah, on n'a pas cité les auteurs.
Alors, pardon. Nous allons faire la présentation de l'album, effectivement, avant que tu puisses reprendre tes critiques à l'égard de mon chéri. Donc, c'est Providence, donc, du scénariste Alan Moore et du dessinateur Jason Burroughs, donc, aux éditions L'Indicible. Et effectivement, c'est le troisième et dernier volume donc, qui clôt, donc, paru en juillet 2017 et qui clôt, donc, en fait, cette adaptation, enfin, adaptation. On dira cet hommage en fait à Lovecraft à travers un récit
un
inventé, mais qui en même temps.
On est d'accord. Mm-hmm. C'est un hommage qui est trop proche, il y a trop de textes.
Il y a trop de mots. J'arracherai bien des pages.
Est-ce que je peux me permettre un gros mot? C'est très chiant.
Oui. Écoute,
non, il y a beaucoup de textes, et puis j'ai un petit peu décroché. En plus, ce dessin, pour moi, n'est pas très intéressant. Mm-hmm. Non, mais tu peux le défendre après.
Non, mais je te laisse, vas-y.
C'est un dessin qui est plein, c'est même du franco-belge dilué, quoi. Ça vaut rien. Quoi.
En fait, enfin, Jean-Marc, c'est parce que tu aimes, tu aimes donc une. Enfin, comment dire c'est très figuratif. Et très, très froid en termes de style, en termes de couleur.
Ouais.
Non, c'est pas simple en fait, je suis pas d'accord. Il y a un
non,
sens absolument
dessiné,
incroyable, c'est remarquablement dessiné. Il y a un sens du détail.
C'est froid.
Oui,
plus,
mais c'est froid,
froid
mais c'est fait
couleurs.
Pour être froid. C'est fait
froid
pour introduire ce sentiment
c'est
d'étrangeté.
Transparent.
Mm-hmm. C'est pas transparent.
J'ai l'impression d'ouvrir mon frigo et puis de chercher un glaçon. Quoi.
Et c'est... tu trouves qu'un pauvre yaourt a jouré depuis 3 semaines. Tu te dis, ça, c'est Lovecraft
non.
par Alan
mais
Moore.
Ça m'a déçu par rapport à Lovecraft. Moi, quand je l'ai vu, c'était quand même assez fort.
Ouais.
Et ça demandait beaucoup de cheminement. Mm-hmm. Et là, je trouve que c'est pâle. Voilà. Mm-hmm.
Bah, écoute, c'est toujours le problème du
et le
choix.
Le supplice du pal, c'est pas agréable.
Non. Enfin, bah, non. Comme disait, alors je sais pas, on l'a attribué à Louis XIV, un supplice qui commence si bien, qui finit si mal.
Oui, d'accord. Mais, mm-hmm. Ah, ouais. Plus forte que moi.
Oui, ah ben ça. Bon, je voudrais pas me la péter, mais donc.
Oh, bah, non.
Oui,
dans
donc
ce cas-là,
filme-moi.
Dans ce sens-là, non. Ça
alors dis-moi.
Non, mais je trouve que c'est un. J'ai été très déçu. L'illustration, je trouvais ça pâle, froid, beaucoup de textes et je sais pas, c'est piqué, enfin c'est pompé directement dans les textes traduits par je ne sais qui de Lovecraft et c'est lourd quoi.
Mm-hmm.
On voit pas le dessin, il y a tellement de textes, le dessin tu le vois pas et en plus il est dessiné pour être complètement inexistant. Ah, je suis méchant.
Alors, non, moi je suis pas, d'accord. Je pense que bon, c'est très cérébral en fait comme BD. À la limite, ben c'est le propre de Alan Moore, donc grand scénariste anglais.
Oui, mais je sais que c'est ton préféré.
Donc l'ermite et le barde de Northampton, donc cette ville effectivement de l'Angleterre qui est juste au milieu de l'Angleterre, voilà,
je sais,
et qui voilà, et tu y es allé. Et donc ouais. Alan Moore, c'est toujours une expérience un peu extrême. Qui fait qu'il est à la frontière entre la bande dessinée et la littérature. Et là, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'on a une bande dessinée qui s'apparente un peu à un pudding extrêmement dense.
Non,
c'est-à-dire
mais je pense, moi, quand je l'ai lu, j'ai pensé sincèrement que Moore aurait pu faire un petit bouquin sur Lovecraft.
Oui, mais mieux vaut faire ça.
Mais il l'a fait.
Oui.
C'est ce qu'il a fait.
Oui.
Mais ça, excusez-moi, encore une fois, c'est un gros bordel, quoi. C'est lisible, c'est chiant. Pardon.
Non, parce que ça demande de rentrer dedans. Mais Alan Moore, c'est comme From Hell. Quand tu lis From Hell, je suis désolée, c'est pas une bande dessinée. Il est complètement à contrario de la BD de franco-belge de 42 pages que tu lis en une demi-heure. C'est l'inverse. C'est-à-dire que après, ça veut pas dire que la BD franco-belge de 42 pages en une demi-heure, c'est nul.
On se connaît depuis longtemps. Je suis d'accord avec vous.
Mais
mais bon, pour moi, c'est pas très lisible. Hein. Voilà, ça me gonfle.
Bah, c'est pas lisible rapidement, mais après, quand tu fais cet effort, tu rentres dans quelque chose d'étrange et délicieusement déstabilisant.
Je préfère lire Lovecraft et puis on en reste là.
Non, je continue à dire.
Continues.
Alors, Jason Burroughs, je suis désolée, donc né en 1972, donc c'est le dessinateur. Et en fait, il travaille depuis 15 ans chez Avatar Press et donc c'est un créateur indépendant. Et personnellement, j'aime son style qui est très descriptif, très figuratif, dans des couleurs froides, mais qui permet justement d'apporter cette espèce de froideur qui fait bien entrer et sortir en fait le personnage principal de l'étrange.
Ah,
voilà.
Je suis d'accord avec vous.
Alors, rappelons un peu l'histoire, je veux dire, c'est celui d'un journaliste new-yorkais dans les années 30 qui a décidé d'écrire un livre sur les croyances américaines, c'est-à-dire en fait la relation en fait qu'entretient la magie et la science, et notamment en fait ce qui est lié notamment à l'histoire de la chasse aux sorcières à Salem et des livres de magie. Correspondent à des communautés américaines de
c'est
pionniers.
C'est un personnage qui a des rapports assez bizarres avec en sexualité.
Bah, en fait, la sexualité, elle est souvent utilisée pour, en quelque sorte, passer. Elle est utilisée comme un sas entre, d'un côté, la réalité et, de l'autre, l'introduction, en fait, de l'imaginaire. Et un imaginaire qui dans Providence, en fait, tu as d'un côté la science, de l'autre la magie. Et la question, c'est comment, en fait, ces deux mondes se rencontrent. Et justement, la sexualité, notamment dans Providence, c'est le moment où tu sais que tu vas basculer. Il y a un moment qui, en fait, casse complètement cette espèce d'ambiance froide où des personnages se parlent de façon très scientifique, analytique, etc.
Ouais,
sont derrière des codes vestimentaires et sociaux extrêmement à la limite du puritanisme. Et d'un seul coup, ça bascule, en fait. Et à ce moment-là, tu as une ouverture vers quelque chose de complètement différent. Moi, je le compare à David Lynch. Mulholland Drive, le personnage sort de la pièce et tout bascule, en fait. Et c'est là où le rêve, en fait, prend la place de la réalité. Et tu as toujours ce moment, en fait, Alan Moore, moi, je trouve, pour les amateurs, hein, si t'accroches pas, bon, je peux comprendre qu'effectivement...
Dit que j'accrochais pas.
Mais t'as ce moment de sexualité qui est comme une sorte qui annonce... Maintenant, on va basculer. Et moi, je trouve ça bien.
Non, c'est intéressant.
Oui. Ouais. Mm-hmm. Oui.
Mais ceci dit, pour les gens qui ne connaissent pas Lovecraft, c'est quand même intéressant.
Oui.
Lovecraft, c'est pas la plus facile des choses à lire.
Oui.
Hein. C'est
c'est comme William Burroughs, en fait. Ce sont des personnes qui, par leur vie personnelle, en fait, ont écrit sur des obsessions qui ont écrit sur leurs souffrances psychiques, oui. Mm-hmm. Mais en tous les cas, bon, les avis sont partagés, mais à chacun de faire son opinion.
Non, mais c'est à lire, c'est le troisième volume. Hein,
oui, tout à fait. Mm-hmm. Donc Alan Moore, Jason Burroughs, Providence, donc aux éditions de l'Indicible, c'est paru donc en 2017.
L'Indicible, c'est qu'on ne peut pas dire ça.
Oui, voilà, on ne peut pas le dire, oui. Oui, on ne peut pas le dire, Jean-Marc.
Voilà, après, on va s'amuser un peu, parce qu'on
voilà,
va décoller.
Exactement.
Hein.
And whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind.
Jean-Marc fait signe, mais alors vraiment, c'est la chute, c'est la piste noire
nous
du doigt qui descend.
Nous étions déchaînés.
Nous étions déchaînés.
Est-ce que
tu peux descendre de la table, s'il te plaît?
Oui, je descends de la table. Il ne faut pas tout dire.
Non, que se passe-t-il dans ce studio? Oui.
Eh bien, c'était presque Highway to Hell, la route vers l'enfer.
Oui, c'est oui, mais bon. Ouais.
Et donc, ça nous amène à un petit personnage.
Steppenwolf, Born to be Wild, oui.
Oui, Born to be Wild, mais il parle aussi de la route vers l'enfer.
Oui, oui, oui.
On aurait pu comparer avec AC/DC, mais on va fermer la parenthèse, parce qu'on n'est pas sur une émission musicale. Et donc, on arrive à Hellboy.
Oui.
Alors, Hellboy, en français traduit, ça veut dire... le petit de l'enfer.
Yes.
C'est pas Superboy, c'est le
Hellboy.
Voilà.
L'enfant de l'enfer.
Alors, toi, tu connais bien l'histoire de Hellboy. Comment il a été conçu?
Alors, Hellboy, c'est un personnage créé par Mike Mignola, qui donc avait commencé à se faire connaître en faisant une adaptation du Dracula de Francis Ford Coppola, sorti au cinéma en 1993. Et donc, son style avait un peu défrayé la chronique, parce qu'on trouvait que cette espèce d'expressionnisme avec de gros aplats, c'était pas très, très joli et tout. Mais en même temps, poussant son goût pour le fantastique, il a créé en 1994 donc Hellboy, un personnage très intéressant qui permet pour lui d'explorer le paranormal. Alors il ne faut pas chercher de références très poussées à la culture magique pré-chrétienne ou pré-monothéiste.
Oui, c'est un peu simplifié. Hein.
Voilà, c'est à la fois simplifié en même temps interprété, voire complètement fictif.
C'est une créature... Hellboy, qui a été, c'est une recherche scientifique.
Oui, c'est une recherche scientifique de nazis qui ont voulu ouvrir un portail donc, entre la Terre et le monde ciel. Des enfers, le monde des enfers, dans lesquels se trouvent des monstres et des démons notamment. Et il se trouve que, cherchant à amener une créature qui était censée leur permettre de dominer le monde et de répondre en fait à toute leur culture, j'allais dire, entre guillemets, paganiste, c'est en fait Hellboy qui est sorti de l'enfer et qui a été élevé par un scientifique dans un bureau de recherche secret qui s'appelle le bureau de recherche paranormal.
Bébé,
c'est un petit bébé, effectivement. Ouais. Donc il arrive dans les années 40 aux États-Unis et il va être élevé par un humain. Et en fait, justement, il est à la fois démon et humain. Et c'est pour ça qu'il se coupe. Il est tout rouge. Il a en fait le bras droit.
Il s'est coupé les cornes.
Il s'est coupé les cornes. Et dans le film adapté de Mike Mignola qui s'appelle Hellboy de Guillermo del Toro, il dit qu'il se coupe les cornes pour s'intégrer. Ce qui est très drôle, sachant qu'il est rouge et qu'il a une main droite énorme.
C'est un peu difficile.
Oui, tout à fait. Donc son boulot, c'est
dans cet album, ce qui est drôle, c'est que. Donc, Hellboy rencontre des gens que nous, on connaît plus. Mm-hmm. Enfin, en tout cas, c'est Batman.
Oui.
Et ils vont faire équipe ensemble. Et l'autre, je ne connaissais pas.
C'est une série qui n'a pas eu tellement de succès, en fait. Donc, Starman. Ouais. Voilà, donc qui comment dire
C'est marrant,
qui est une série abandonnée. Qui est une série de Marvel, en fait, c'est un personnage Marvel. Donc c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il y a d'un côté un personnage DC, voilà, donc Batman, et de l'autre, un personnage Marvel, Starman, qui a fait l'objet de trois tomes, mais ça n'a pas marché. Donc peut-être qu'il réapparaîtra, qu'il aura du succès par la suite.
C'est vrai qu'il n'est pas trop intéressant. Enfin,
il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas, je trouve.
Il n'y a pas d'épaisseur.
Oui, mais en tous les cas, l'histoire... Enfin, en fait, cet album, c'est deux histoires. Voilà, donc ça s'appelle Rencontre. Et donc, c'est Mike Mignola, James Robinson et Scott Benefield. Ouais. Donc, la première histoire se passe principalement à Gotham, puis ensuite en Amérique du Sud. Voilà. Mmh. Et donc, traite effectivement de l'affrontement entre Hellboy, Batman, Starman d'un côté et de l'autre des nazis qui vont utiliser une machine.
Oui, c'est un vieux fantasme. Oui. Ça rappelle surtout l'histoire de Hellboy.
Parce oui, tout à
Hellboy,
fait.
Hellboy, c'est un... c'est les nazis qui ont travaillé sur sa création, enfin, quelque part. Ce qui ne regarde pas du tout Batman, ce n'est pas son monde. Et comme la plupart du temps, on dit que les nazis fuyants se sont réfugiés en Amérique du Sud, etc. Ce qui n'est pas faux, c'est clair. Donc oui, politiquement c'est relativement, il y a un côté un petit peu intéressant.
Oui, quoi que ce soit uniquement effleuré, oui, ce sont des néo-nazis qui effectivement
mais c'est un peu simplifié,
oui,
hein. Ils sont tellement cons que excusez-moi, c'est bêta, quoi, c'est vraiment à minima, quoi.
Là, c'est effectivement Batman. Enfin, le récit s'ouvre sur Batman qui poursuit le Joker et se trouve en fait à devoir arrêter une espèce de cérémonie magique de néo-nazis au sein de Gotham. Et en fait, se demandant à ce à quoi ça correspond, puisque il se retrouve face à des manifestations qu'il ne connaît pas. Lui, il ne connaît que le monde du crime. Donc, se retrouvant face au monde de la magie, en fait, l'inspecteur Gordon le convie à rencontrer une personne dont il a entendu parler, mais qu'il n'a jamais rencontré, et qui est donc Hellboy. Voilà. Et donc, les deux vont se trouver demander l'aide d'un troisième personnage, Starman, qui est en fait le fils d'un autre Starman, c'est-à-dire que là on a une transmission, de tradition de super-héros.
Ça me fait pencher à une chanson de Bowie, Starman. Je vais pas la chanter maintenant parce qu'il fait beau.
Oui.
Pardon.
Mais ça peut se couvrir, oui, donc ne la chante pas. Donc, et c'est les connaissances, en fait, justement, en magie, en technologie de Starman, de Monsieur Knight, en fait, que Batman et Hellboy vont utiliser pour arriver, justement, à
trouver le repère. Au début, ils ne s'entendent pas très, très bien.
Bon, ils ont chacun leur personnalité. Après,
ils n'ont pas trop envie de collaborer ensemble au début.
Mais par la suite, effectivement, enfin, ils vont se séparer puisque en fait le Joker a fait une prise d'otage et donc
Batman n'en voit pas beaucoup.
Oui, mais il revient à la fin, oui, tout à fait.
Ben, à la fin, c'est toujours les Allemands qui gagnent.
Oui, voilà, exactement.
Comme au foot.
Oui. donc effectivement, Batman revient à la fin du récit pour le clore et donc
pour
donc,
le c'est... clore. C'est...
Oui. Oui. Oui, il a balancé, encore tes jeux de mots. Oui, merci. Voilà, donc en fait, cet album se compose de deux histoires. L'une se passe à Gotham et l'autre se passe à Arcadia. Et en fait, un quatrième personnage, et je regrette qu'elle ne soit pas sur la couverture, donc apparaît, et il s'agit de Ghost.
Ghost, ah, c'est une... belle.
Oui, elle est très, très belle. Ah, elle fait à la fois super-héroïne et en même temps, ben, c'est un fantôme. Une femme qui, donc, à travers sa condition de fantôme, se venge de tous ceux qui font du mal autour d'eux. Et donc, elle a deux gros flingues qui, en fait, ne manquent jamais de munitions avec lesquelles elle tue. Donc, elle pratique sa propre justice.
Oui.
Voilà. Et donc cette deuxième histoire,
c'est le genre de femme qu'on aimerait croiser, mais pas trop longtemps.
Oui, voilà, exactement. Donc, et tu as intérêt à ne pas avoir fait du mal autour de toi, Jean-Marc. Donc en fait, Ghost, enfin comment dire, Ghost enquête sur une malédiction, une damnation plus exactement, qui a touché des mafieux des mafieux qui ont massacré d'autres mafieux pour les faire parler autour d'une histoire de drogue. Et justement, Hellboy est appelé à Arcadia pour enquêter sur Ghost, que le bureau du paranormal en fait veut rencontrer. Donc elle, influencée par une espèce de divinité un peu bizarre qui se fait nommer la paix, en fait promet à Ghost donc un éclaircissement concernant sa vie précédente, parce que Ghost est en partie amnésique, elle ne sait pas d'où elle vient, elle ne sait pas, enfin elle ne connaît pas sa quête en fait, elle ne connaît pas son histoire. Et donc en fait cette entité magique en fait propose à Ghost de lui amener, enfin de propose à Ghost que elle lui amène en fait Hellboy, parce que le bras droit d'Hellboy, donc qui est un bras absolument énorme en fait, est une clé qui permet d'ouvrir un portail à nouveau vers l'au-delà.
À un moment donné.
Non, on ne lui vole pas en fait, c'est qu'il
on
est enchaîné. Non, tu n'as pas lu la même chose que moi. Non, en fait, il se retrouve capturé et enchaîné, et en fait, à un moment donné, il est question de lui couper son bras, et donc
pour faire une réplique.
Oui, ou pour tout simplement l'utiliser comme quand toi tu détaches une clé de ton porte-clé. Et en fait, Ghost comprend qu'elle a été trompée et elle va donc tirer dans les chaînes de Hellboy pour qu'il puisse se libérer et donc se jeter.
D'accord.
Sur.
Merci,
mais c'est toujours la même histoire.
D'avoir rétabli la vérité.
Oui, j'ai rétabli la vérité, Jean-Marc, parce que sinon nos auditeurs allaient être totalement perturbés par ton interprétation du récit.
Non, mais.
Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire, oui? Le style Mignola ou le scénario Mignola, parce que Mignola est pas seulement...
Le dessin, il est fabuleux. Il m'a fait penser, on en a parlé tous les deux au téléphone l'autre jour, ça ne me regarde personne, un dessinateur fantastique qui s'appelle Alex Toth.
Yes.
Alors Toth, c'est T-O-T-H. Il faut mettre la langue entre les, les dentiers pour pouvoir le prononcer correctement. Allez voir, c'est un dessinateur formidable, moi j'adore ça. Par rapport à Alexos, il met de la couleur, mais bon, c'est assez bien calculé dans ce cas-là.
En fait, moi je trouve que chez Mike Mignola, il y a quelque chose de différent par rapport à Toth, c'est la composition. Mignola est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la diagonale, donc vivi.
Mais là,
là nous sommes d'accord, voilà, exactement. Donc en fait, c'est des compositions qui sont vraiment assez extraordinaires. En fait, moi je trouve que il va toujours vers l'essentiel et il y a un modelé qui est travaillé vraiment par gros aplats. Et en fait, tout est sur la même technique, c'est-à-dire que tu n'auras pas en fait un aplat et par-dessus, par exemple, un effet de la vie pour faire un modelé. Non, ce sera toujours toujours des aplats en fait qui permettront à la fois de faire le personnage et aussi de faire les modelés. Ce qui l'air de rien est graphiquement pas très évident. Faut bien maîtriser justement en fait le dessin pour y arriver. Et puis on a une disposition des cases très dynamique mais plutôt classique. Voilà. Et en fait, ça alterne avec de très belles grandes pages, donc de pleines pages. Donc finalement, la mise en page est assez classique. Il n'y a que vraiment cette composition en diagonale qui permet de donner de la dynamique, en fait, donc, dans le style.
Vous pouvez regarder ça sur notre Playtag. En vidéo, comme d'habitude.
Oui, voilà. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles, mais en tous les cas, sur Internet, effectivement, si on cherche Mike Mignola Hellboy, on peut avoir en image
Vous cherchez Radio B,
voilà.
Anne, et puis vous trouvez tout de suite.
Oui, vous trouvez tout de suite. Donc, non seulement des photos de moi, mais
non. Vous trouvez nos émissions et puis le son qui va avec.
Voilà.
On va peut-être écouter un peu de musique, là.
Oui, tout à fait.
I have never had a thought which I could not set down in words with even more distinctness than that which I conceived it. There is, however, a class of fancies of exquisite delicacy which are not thoughts, and to which as yet I have found it absolutely impossible to adapt to language. These fancies arise in the soul, alas, how rarely. Only at epochs of most intense tranquility, when the bodily and mental health are in perfection, and at those mere points of time where the confines of the waking world blend with the world of dreams. And so I captured this fancy, where all that we see or seem is but a dream within a dream.
Alors, nous passons à Old Man Logan de Jeff Lemire. Je ne sais pas si on dit ça comme ça.
Tu peux traduire parce que moi, je ne comprends rien à ce que tu dis.
Oui, oh, je t'en prie, Jean-Marc. Donc, le vieux Logan, voilà, chez Marvel Now. Donc, en fait, c'est Panini Comics. Et donc, il s'agit ici d'un album donc, qui est sorti en 2015, voilà.
Et qui reprend donc, un personnage qu'on connaît quand même.
Oui, tout à fait. Et nous avons le tome 2. Voilà, donc le tome 1, en fait, qui...
Bon, avec le tome 2, on comprend quand même. Hein.
Oui, parce que donc il est à la fois indépendant du premier, mais en même temps, on est dans la continuité. Parce que, en fait, originellement...
C'est normal, le 2, que ce soit dans la continuité du premier.
Exactement, oui. Pardon. Mais aussi dans la continuité donc, de Old Man Logan, qui est en fait non une création de Jeff Lemire, ou Lemire, si on le dit en français. C'est une création de Mark Millar. Donc, qui est connu pour Civil War, Kick-Ass, Wanted ou encore Kingsman, qui était adapté au cinéma.
Il est connu.
Oui, tout à fait. C'est un grand scénariste qui mène une réflexion sur le statut de super-héros de façon soit très distrayante comme Kingsman, soit au contraire très appuyée sur la réalité avec Kick-Ass, donc l'histoire de ce jeune adolescent qui, disons, en gros, a une vie de merde et décide de devenir un super-héros.
Anne.
Oui, mais ça arrive, hein. C'est un mot qui existe, nous sommes à l'antenne. Ouais. Donc ici, Wolverine est propulsé dans une autre dimension, qui est intitulée donc Earth, alors 807128, et donc nous sommes dans le futur.
Il
a vieilli, effectivement, mais il a fondé une famille, et il se trouve que les vilains ont gagné. Donc en fait, il se retrouve à devoir se soumettre à leur autorité, et ce qui se passe, c'est que d'un seul coup, il est propulsé. Donc ça, c'est effectivement la deuxième série que l'on a sous les yeux ici. Il se retrouve propulsé en 2015. Pourquoi ? Parce que il ne le sait pas, en fait. C'est-à-dire qu'il a cette possibilité, se retrouvant dans le passé, c'est-à-dire se retrouvant à l'époque qui a précédé justement la victoire des vilains, il a cette possibilité de pouvoir modifier le passé. Et en fait, la dialectique est toujours la même. c'est-à-dire s'il modifie le passé, est-il prêt à accepter de ne pas rencontrer les êtres qu'il aime, notamment sa femme, et de faire un enfant avec elle. Voilà. Donc ici, il est au Canada pour mener une vie tranquille, donc dans l'album 2 qu'on a sous les yeux, et il a des ennemis à ses trousses, donc notamment les Deathstrike et les Rivers. Voilà. Donc c'est évidemment encore une fois le thème du héros et du sacrifice. Et ce qu'on peut effectivement dire, c'est qu'on retrouve à la fois Wolverine et en même temps, on retrouve un Wolverine différent, ce qui est très intéressant à travers effectivement une histoire qui est un peu à l'inverse, n'est-ce pas, de l'album Providence écrit par Alan Moore. C'est-à-dire qu'en gros, là, l'histoire ne nous monte pas trop au cerveau. Enfin, c'est mon opinion personnelle. Mais graphiquement, c'est vraiment très, très beau.
Moi, ça m'a un petit peu rappelé le Frank Miller sous Batman. Mm-hmm. Batman vieillissant.
Oui, tout à fait.
Mm-hmm. Et c'est un peu... Graphiquement, ça me fait penser à ça. En plus, le héros vieillissant, la thématique est un peu la même.
Oui. Mais en fait, il y a aussi une couverture qui pourrait faire
la
penser.
La couverture, c'est...
Façon carte à gratter, effectivement, avec des flocons qui, eux, sont dans un gris bleu, qui permet effectivement de...
Sur la couverture de Dark Knight, c'est pas très loin.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Exactement. Et évidemment, avec la signature Wolverine, c'est-à-dire que quand bien même on ne reconnaît pas la tête du personnage qui est assis, accroupi sur une branche d'arbre, eh bien, évidemment, il y a les griffes de Wolverine qui nous permettent de tout de suite voir que c'est lui. Et donc, évidemment, c'est quand même assez violent, voire gore, puisque Deathstrike, en fait, se fait un peu découper en morceaux, disons-le. Voilà. Il l'a bien mérité aussi. Elle n'est pas hyper sympa, faut le dire. Mais c'est effectivement du comics, vraiment de l'âge contemporain du comics. Hein, c'est-à-dire que vraiment, on est sur la partie, pas décadente des personnages, mais je veux dire, forcément, on peut découvrir en fait Wolverine à travers cet album. Mais en même temps, quand on connaît l'histoire du personnage et la façon dont il a été dessiné, là, on est mais complètement à contrario. Du dessin des années 70-80, quoi. Voilà.
Non, mais c'est un très bel album.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. D'accord. Assez ensanglanté, mais oui.
Il nous reste quelques minutes pour traiter notre prochain album.
Oui, mais on va d'abord écouter un peu de musique.
Bien sûr, oui. Avec plaisir.
Six eyes, I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like a ride, so push the best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using dream warfare. Rock.
Alors, Jean-Marc, prochain album, The Damned.
Ces années.
Oui, voilà. Tome 1, mort pendant 3 jours par Cullen Bunn et Brian Hurt et Bill Crabtree, ce qui doit être le coloriste. Voilà.
Et Crabtree, c'est un jeu de mots, puis c'est un acteur qui s'appelait Crabtree.
Mm-hmm.
Crab et Tree.
Mm-hmm. Oui.
D'accord, c'est pas trois, hein, c'est l'arbre.
Oui.
Et puis Crab, c'est... le crabe.
D'accord. Okay.
D'accord.
Ok. Et donc, la symbiose des deux, ça donne quoi?
Un
arbre en forme de crabe?
Je ne sais pas. Un crabe qui monte dans les arbres, je ne sais pas.
Alors ici, nous avons... en fait, c'est la réédition d'un album, puisque ici, nous avons une édition de 2018, mais il se trouve que cet album a 10 ans. en fait. Et là, il est donc réédité. Donc le tome 1, Mort pendant 3 jours, c'est a été édité en 2008.
C'est la chanson de Souchon, c'est, j'ai 10 ans.
Oui, voilà, c'est exactement ça. Tome 2, Les fils prodigues, qui a été publié en 2009. Donc voilà, nous sommes face au tome 1 et nous avons le plaisir de redécouvrir ce qui peut-être était passé un petit peu dans l'oubli, mais c'est ressorti récemment, je l'ai trouvé. Oui, donc aux éditions Aquileos, voilà.
Donc, que personne ne connaît, mais c'est pas grave, ils connaîtront
maintenant. C'est l'occasion, voilà, exactement. Donc, Cullen Bunn, en fait, a surtout travaillé pour Marvel, en fait. Donc, il a travaillé sur Avengers, Gardiens de la Galaxie et Deadpool. Et quand on regarde, en fait, son CV, on s'aperçoit qu'il n'a jamais travaillé pour DC Comics. Trop dingue, trop fou. Oui.
Ouais, trop fou. Ouais. Et donc, par contre, il a un dessin qui fait un peu franco-belge, je crois.
Alors, c'est le scénariste dont je te parlais, Brian Hurt.
Pardon, excusez-moi.
Lui, donc, a fait 2 collaborations avec Bunn sur Damned, justement, et Sixth Gun, le 6e pistolet.
Oui, j'ai compris.
Pistolet.
Sixth
Gun. 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 Voilà.
Mettre la langue entre les dents.
Oui, à nouveau, entre les dents du dentier. Très bien. Alors, quelle est l'histoire?
Ah, c'est un peu compliqué. C'est un gangster, hein. Ça se passe... Oui.
Dans les années 30, hein. Oui, ouais. Durant la Prohibition.
Prohibition, il se fait tirer dessus, il est mort. Mmh. Mais en fait, il est pas mort.
Oui. Et pourquoi?
Ah, mais il se relève tout le temps. Et puis, le problème de ses anciens patrons, c'est de le tuer. Mais en fait, on ne peut pas le tuer parce qu'il est déjà mort.
Alors oui, il a signé effectivement un pacte avec le diable, enfin exactement. Plus exactement avec un démon, qui fait qu'il ne meurt pas, et plus exactement, il ne meurt pas définitivement. C'est-à-dire qu'on peut le tuer, mais toute personne qui le touche, alors qu'il est mort, en fait, se trouve victime d'un transfert extrêmement violent, c'est-à-dire que lui meurt,
sa vie.
Y compris de la façon dont l'autre est mort, et lui se relève. Et en fait, il porte sur le visage une multitude de petites cicatrices qui correspondent à autant de morts,
horrible,
en fait.
Hein.
Oui. Et si ça s'appelle « Mort pendant 3 jours », c'est parce qu'effectivement, l'histoire s'ouvre sur son cadavre, qui est retrouvé par les membres de sa bande, et donc il commence à se décomposer avec des petites mouches tout autour de lui, et en fait l'un des gangsters l'approche et le touche, et évidemment ce gangster meurt, lui se relève, et il dit à ses comparses qui connaissent cette malédiction, oui, quand même, vous exagérez, ça fait 3 jours que je vous attends.
En fait, c'est un intouchable.
Oui, d'une certaine façon, on peut dire qu'effectivement, qui le touche prend des risques si jamais il est mort. Voilà.
Mais ça l'embête quand même d'être... c'est un mort-vivant, en fait.
Oui.
Il est toujours vivant, mais il n'a pas
dit... Disons que c'est une souffrance pour lui. C'est une souffrance.
Sociale.
On ne sait pas pourquoi, en fait, il a passé ce pacte, puisque c'est ça qui est intéressant. Mais peut-être qu'on a un début de réponse, en fait, à la fin de l'album, puisqu'on sait que dans cet au-delà où se trouvent les morts damnés, et donc les morts qui errent, qui n'ont pas trouvé la paix, justement, se trouve sa mère. Et on voit un portrait de lui avec sa mère et avec son jeune frère. Voilà. Mais on n'a pas encore d'éléments de réponse. Donc là, on est plutôt face à un récit qui met en avant donc, tout simplement l'enquête policière. Et cette enquête policière est d'autant plus originale qu'elle se passe au moment de la Prohibition. Mais les protagonistes sont d'un côté les mortels et de l'autre des démons. Et en fait, ce sont 2 gangs de démons qui se font la guerre, mais qui ont décidé quand même d'essayer de passer un accord. Le problème, c'est que le comptable de l'un des gangs, en fait, a été enlevé. Alors la question, c'est pourquoi a-t-il été enlevé et par qui ? Donc, il y a d'un côté donc le gang de Bruno. Alors, c'est assez drôle d'être un démon et d'avoir un prénom, j'allais dire, qui fait aussi peu peur, hein, qui est plutôt sympathique. Et puis, de l'autre, il y a le gang de Big Alighieri. Alors, Alighieri, évidemment, c'est le nom de famille de Dante, le grand poète du XIVe siècle, qui a écrit la Divine Comédie, composée, évidemment, de l'enfer, du purgatoire
tableau,
et du paradis.
On peut rappeler qu'il y a monastère. Pardon.
Oui, au monastère royal de Brou.
L'enfer de Dante. Voilà.
Oui, Dante et Virgile dans le 9e cercle de l'enfer, la mer de glace des damnés.
Gustave Doré.
Yes.
Il faut préciser les
oui,
choses.
Oui, oui, tout à fait. Et sorti au salon en 1861.
Voilà.
Yes.
Non, mais t'es obligé de toujours...
Ouais, j'aime t'humilier comme ça à l'antenne, Jean-Marc. Oui. Donc, alors, as-tu aimé ?
De quoi ?
À ton avis, l'album.
Tes à propos, non.
Non, mais à propos, oui, bien si, sûr, si, que toujours, tu les apprécies. Toujours. Oui.
Non, Dame, d'abord, c'est le titre qui m'avait attiré au départ.
Oui.
Et si le dessin ne m'a pas déplu, mm-hmm. après, une fois qu'on a compris la problématique, c'est-à-dire que le type est mort et il sera à part être tiré dessus, etc., qu'il ne va pas jamais mourir, qu'il va juste prendre des cicatrices en plus. Bon, l'histoire n'est pas très, très intéressante.
Elle est classique d'une certaine façon, mais en même temps, je trouve qu'elle fonctionne assez bien.
Je ferai pas trois volumes avec ça.
Mm-hmm. Bah, écoute, tu verras avec le volume 2. Hein.
Oui, d'accord.
Ce qui se passe quand on a l'explication.
Le volume 1, c'est largement suffisant pour moi. Mm-hmm. Mais bon, j'adore la couverture, j'aime bien, parce qu'elle est bien, elle fonctionne bien, elle est bien structurée.
Oui, bah, c'est l'ambiance, en fait, qui fait la force de cet album.
Ouais.
Oui.
Après, bon, l'histoire, ça m'a gonflé au bout de quelques pages.
Il n'y a pas de surprise notable, à ceci près qu'il y a un moment où ils rencontrent un troisième groupe de démons qui, eux, gèrent les livres des damnés. Et là, ça devient... on quitte effectivement le côté genre gangster pour entrer plus profondément dans le genre fantastique. Et là, ça prend une tournure tragique, je trouve, qui donne de la profondeur à l'album.
C'est pour ça que j'avais choisi, oui. parce que je trouvais qu'il y avait une dimension fantastique.
Yes.
Yes.
Mm-hmm. Yes.
Je crois que It's Time.
It's Time. Donc, on rappelle quand même The Damned, tome 1, mort
non,
pendant
non,
3 jours.
The Damned.
The Damned. Oh, pardon, Damned. Bon, d'accord, ok, je serai
non, on voit
brûlée
que
vive.
Radio française. Hein.
Oui, oui. Non, mais grâce à toi, en fait, le multilinguisme est sur Radio B.
Radio Londres parle au français.
Oui, voilà. Donc, Jean-Marc, attention, Jean-Marc va vous envoyer un message codé.
Non.
Tu sais qu'on est au courant que les Américains ont débarqué. Donc,
nous
en juin 1944.
Mm-hmm. Ouais, c'est
oui.
ça.
Donc, envoie ton message, Damned. Ouais. Damned.
Alors, this is the end.
Mm-hmm. Yes, this is
Jim
the
Morrison,
end.
Dans un film fantastique de Francis Ford Coppola.
Ah, Apocalypse Now. Mais enfin, Jim était un peu...
Ben, il était déjà mort.
Oui, voilà, oui, tout à fait.
C'était juste un enregistrement.
Oui.
Bon, ben, on va vous quitter. C'est dommage parce que ben, on s'entend bien, en fait.
Mm-hmm. Oui.
Enfin, surtout vous écoutez mieux que nous.
Oui.
Voilà, on va peut-être écouter un petit bout de musique. Et puis, on remercie nos partenaires préférés, surtout... le réseau des médiathèques de la ville.
Exactement,
de Lyon.
Oui, qui a de très belles collections. Donc,
exactement.
Le réseau des bibliothèques de la ville de Bourg-en-Bresse. Voilà, donc vous poussez la porte des médiathèques et vous pouvez vous asseoir sur un fauteuil et lire des bandes dessinées.
Voilà.
Oui.
Et pour beauté hors du terrain, merci Cultura.
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Oui.
Des...
Clip, crop,
des...
Bang,
des...
Bang,
et des...
Zip, shibam, pow, blanc.